Il est 5h59, Mathieu Noël.
L'heure de la météo avec vous, Céline Dacosta, et triste nouvelle, des nuages un peu partout.
Oui, ils sont surtout présents ce matin sur une partie est du pays. On en aura un petit peu partout cet après-midi. Quelques éclaircies tout de même, mais un vent de nord bien sensible. Là où ce sera bien ensoleillé, c'est près de la Méditerranée, puis entre la Bretagne et la Gironde pour ce matin uniquement. Les températures sont en baisse, 9 à 14 degrés prévus pour la moitié nord cet après-midi, 14 à 19 tout de même pour la moitié sud.
Merci Céline.
Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui est à l'infotainment, ce que le Cirque du Soleil est aux Arts Forains. Un spectacle haletant, puisque chaque matin, avec nos funambules Céline Dacosta et Varoc, nous avançons sans mousqueton et sans filet sur cet étroit filin qui sépare l'info rigoureuse de la gaudriole potache. Attention Eva!
Je me suis écrasée, mais comme une merde.
Heureusement. Eh oui, parfois il y a des petits comme ça, des petits incidents. Ça arrive même au Cirque du Soleil. Alors, heureusement, Debout les copains, c'est aussi des exercices au sol avec l'équilibriste de l'histoire, Fabrice Dalméda. Fabrice qui ce matin, alors qu'Emmanuel Macron reçoit le président Xi Jinping, revient sur 150 ans de relations franco-chinoises.
Merci d'écouter Europe 1 ce lundi 25 mars. Il est 6h, très bon réveil. 5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce lundi 25 mars. Bonjour Céline Kalman.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Ouverture du procès en appel d'Abdelkader Merah, le frère de Mohamed Merah, le terroriste de Toulouse. L'enjeu est d'obtenir une condamnation plus forte. Il y a 2 ans, il avait écopé de 20 ans. Le président chinois attendu à Paris après une visite privée à Nice. Il sera question des enjeux commerciaux. Et puis ce soir, la France affronte l'Islande au Stade de France dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2020.
Elle affronte l'Islande, la France.
On y revient dans le Journal des sports de Jérôme Lacroix.
Europe 1.
Il y a 7 ans, Mohamed Merah exécutait 7 personnes, dont 3 enfants d'une école juive à Toulouse et Montauban. Le frère du tueur Abdelkader Merah, en 2017, a été condamné à 20 ans de réclusion. Il est à nouveau jugé à partir d'aujourd'hui à Paris pour complicité de ses crimes. Tout l'enjeu pour l'accusation et les familles des victimes est d'obtenir une condamnation plus forte, Chloé Triomphe.
Oui, lors du premier verdict, les familles de victimes ont eu du mal à entendre que le frère du tueur au scooter n'ait pas écopé de la peine maximale, la perpétuité, et n'ait pas été condamné pour complicité d'assassinat, comme l'explique maître Patrick Lugman, l'avocat de la famille Sandler.
Quand on connaît la formation idéologique des deux frères, leur compagnonnage, le fait qu'ils se rapprochent exactement dans cette séquence-là, le fait que Abdelkader Merah est celui qui va fournir les instruments matériels, après avoir probablement fourni les nourritures intellectuelles à son frère pour commettre ses crimes, notamment évidemment le fameux scooter, Abdelkader Merah ne peut pas ne pas être le complice.
Mais cette vision du dossier n'avait pas convaincu les magistrats de la cour d'assises qui avaient estimé que l'existence d'une aide matérielle apportée en toute connaissance de cause à son frère Mohamed n'était pas suffisamment démontrée. Ce sera tout l'objet de ce procès en appel.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Les propos d'Emmanuel Macron risquent bien de faire réagir. Dans un entretien accordé à Nice ce matin, le chef de l'État souhaite un prompt rétablissement à la manifestante de 73 ans blessée à Nice lors de la manifestation des Gilets jaunes samedi. Emmanuel Macron qui ajoute qu'il lui souhaite aussi une forme de sagesse, précisant que lorsqu'on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits. La famille de cette militante d'attaque va porter plainte aujourd'hui contre les policiers et le préfet.
Après Nice, Paris, Xi Jinping est attendu aujourd'hui dans la capitale.
Oui, le président chinois a déjà rencontré Emmanuel Macron hier. Ils ont dîné à Beaulieu-sur-Mer. Aujourd'hui au programme, une séance de travail suivie d'une déclaration à la presse et d'un dîner d'État. Jean-Rémy Baudeau.
Oui, au-delà des images officielles, il y aura en coulisses de longues discussions et les sujets ne manquent pas. France et Chine affichent leur volonté de travailler ensemble, de multiplier les partenariats et coopérations, des accords commerciaux aux questions climatiques. Paris qui espère signer un certain nombre de contrats, des négociations devraient être finalisées dans les prochaines heures dans l'aéronautique, le nucléaire ou l'agroalimentaire. Mais le président Macron va surtout plaider pour plus de réciprocité dans les échanges avec la Chine. Il faut sortir de la naïveté, dit-on à l'Élysée. La France veut notamment pouvoir mieux accéder au marché public chinois. Pékin a tout intérêt à discuter avec nous, glisse un conseiller, bien conscient que le chemin sera long. C'est avec la Chine que la France a la balance commerciale la plus négative.
Jean-Rémy Baudot pour Europe 1. Aux États-Unis, Donald Trump s'est empressé de tweeter après la décision du procureur Mueller. Ce dernier n'a trouvé aucune preuve d'une éventuelle collusion avec la Russie lors de la présidentielle en 2016. Pas d'obstruction, disculpation complète et totale, a écrit le président américain. Ce dernier reçoit aujourd'hui à la Maison Blanche Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Il va signer la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur la partie du plateau du Golan. En Israël, on apprend ce matin qu'une roquette a frappé une maison au nord de Tel Aviv. 5 personnes ont été blessées.
Le navire de croisière Viking Sky a fini par rejoindre un port en Norvège après une opération de sauvetage incroyable.
Ouais, des centaines de passagers ont été litroyés depuis le pont du paquebot, battu par des vagues de plus de 15 mètres. Une vingtaine d'entre eux ont dû être hospitalisés. Claudia Bertram.
Après 24 heures dans une mer déchaînée, les 1373 passagers du Viking Sky ont regagné la terre ferme hier après-midi. Le navire de croisière a rejoint un port escorté par plusieurs remorqueurs. Rousse, qui était à bord, a cru sa dernière heure arriver.
Nous sommes très chanceux. Ça aurait pu être un désastre terrible. Et c'est grâce à l'équipage. Ils étaient présents, ils aidaient les gens, ils souriaient. Ils nous disaient « Tout va bien se passer, nous savons ce que nous faisons, nous allons prendre soin de vous ». Et c'est ce qu'ils ont fait.
Rousse fait partie des 460 personnes élitroyées lors d'une opération de sauvetage spectaculaire. Au total, 25 passagers ont été hospitalisés. Un bilan miraculeux pour les secours sur place qui parlent d'un événement extrêmement grave qui aurait pu faire des morts. Une enquête va être ouverte pour déterminer les causes de l'accident. La compagnie, elle, a annulé sa prochaine croisière.
Claudia Bertram pour Europe 1. Un quartier populaire de Marseille a été le théâtre de tirs de Kalachnikov hier après-midi. Probablement des tirs d'intervention. Intimidation selon la police. Il n'y a pas eu de blessés. La police judiciaire est saisie de l'enquête. L'Agence nationale des produits de santé pourrait interdire 7 marques d'implants mammaires, des marques susceptibles, selon les termes de l'agence, de constituer un danger rare mais grave d'un type de cancer chez les femmes qui portent ces implants. Depuis 2011, 56 cas ont été recensés.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Céline, plus qu'une collègue, une amie que, à ce titre, je n'ai jamais ménagé en termes de son à la con en sortie de journal. Elle a le cuir épais, comme on dit, c'est pour ça que je me permets. Mais bon, là, Céline, tout de même, que votre mari qu'on embrasse se bouche les oreilles, ce matin, ça va un chouïa loin. Puisque nous revenons, je m'en excuse d'avance, sur notre nuit de samedi à l'hôtel Ibis Budget de la Porte de Clignancourt.
Comment ça va? Comme ça.
Je suis trop longue ou quoi?
Oui.
Ah bon?
Ah oui, ah ça oui.
Non, ça dépend, attends, il y a des fois... Je savais plus où on était.
Si jamais les choses devaient mal tourner, dites-moi Céline, votre mari, il est plus petit ou il est plus grand que moi?
À peu près égal.
Oh mon Dieu, ça sera un combat. Mais... pas compliqué alors. Bon, alors évitons.
On mais les bruits de matin vont très lentement, je
trouve. Oui, c'est vrai que moi, je vous en prie, j'étais un peu fatigué. Bon, nous verrons ça demain. À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et ce matin, alors qu'Emmanuel Macron reçoit le président Xi Jinping, il revient sur 150 ans de relations franco-chinoises.
Bon réveil à tous, il est 6h07. Il est 6h09, Mathieu Noël.
Et si nous faisions Céline,
oui,
ça serait de circonstance, un point sur la météo. Avec encore du soleil, mais près de la Méditerranée seulement.
Hein. Comme souvent, il est bien présent près de la Méditerranée, où il va briller largement, et ça toute la journée. On en aura aussi du soleil ce matin, généreux des Pays de la Loire, en Bretagne, Pays de la Loire, Limousin et jusqu'en Gironde. Pour les autres, déjà beaucoup de nuages, surtout sur l'est du pays. Cet après-midi, des nuages pour tout le monde, avec quelques éclaircies, sauf près de la Méditerranée, ça on l'a bien compris, accompagné d'un vent de nord, un vent bien frais, avec des températures qui en plus sont en baisse. Il fera 10 degrés à Rouen, 12 à Paris, 13 à Strasbourg, 14 à Nantes. Pour la moitié sud, c'est plus doux, hein, 15 à Lyon, 16 à Cognac, 19 à Marseille, jusqu'à 22 degrés attendus à Montpellier.
Merci Céline. Eva.
Et oui, depuis ce matin, 5h, on en parle, c'est la journée de la procrastination. Est-ce que vous remettez, vous, au lendemain de certaines tâches? Eh bien, Caro nous dit sur Twitter avec l'hashtag Europe 1, j'aime bien dire que je suis plus efficace dans l'urgence. Ça fait mieux que de dire je traîne pour faire les choses à la maison. Le truc que je repousse toujours, c'est de sortir la poubelle. Heureusement, objectif zéro déchet en cours. Et Xavier nous a également dit, je répondrai à votre question demain. Là, j'ai pas le courage d'expliquer un argumentant et je dois d'abord finir ce sudoku.
Tu fais du sudoku à 6h du matin?
Non, je pense que c'était pour se moquer un peu de nous et il a raison. Continuez à réagir.
C'était donc ce qu'on appelle de l'humour.
De l'humour, ouais.
Ben, je m'y mets doucement, progressivement. Merci beaucoup, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
C'est un journaliste dont nos auditeurs sont loin de connaître toutes les facettes qui nous rejoint à présent en studio. De Jérôme Lacroix, vous connaissez le professionnel, le journaliste sportif, fan d'Étienne Dao. Vous savez peut-être, si vous l'écoutez très tôt le matin, son goût étrange pour les sous-vêtements fantasy. Mais vous ne connaissez pas l'homme, celui qui a fait craquer Céline Dacosta par son romantisme et son inventivité. Ainsi, pour la Saint-Valentin, Jérôme avait sorti le grand jeu, en offrant à Samy un véritable son et lumière à la Arturo Brachetti, avec pas moins de 17 changements de slip en une seule soirée.
Attendez qu'il faisait des flammes avec le pot d'échappement.
D'où l'extincteur qu'il a toujours à portée de main dans sa chambre. Voici Jérôme Lacroix pour le journal des sports. Et justement, à la une, ça s'enchaîne parfaitement, un volcan.
Un volcan islandais. Les footballeurs de l'Islande, île volcanique entre Groenland et Norvège, 350 000 habitants. Les joueurs sont ce soir au Stade de France pour affronter les Bleus, deuxième match des éliminatoires de l'Euro 2020. Alors, lors de leur dernière visite en France, en octobre, les Français, tout frais champions du monde, avaient sauvé de justesse le résultat nul. C'était à Guingamp, de partout. C'était en match amical peut-être, alors du relâchement, il n'en sera rien ce soir, assure Didier Deschamps.
C'est la vérité de ce match-là, on n'y était pas, donc j'avais pas de doute en octobre, et je sais très bien la qualité de cette équipe islandaise, leur état d'esprit, c'est un peu dans leur ADN, c'est une équipe qui lâche rien, qui donne rien, donc voilà, on va voir du répondant, ça c'est une évidence.
Alors on parle des Islandais, est-ce que vous vous souvenez de ça? Gudmundur Benediktsson, le commentateur rendu dingue pendant l'Euro 2016, lors de l'exploit majuscule, les Islandais éliminaient les Anglais en huitième de finale. Alors là, ils arrivent un peu moins en confiance, hein. Un seul match gagné depuis janvier 2018. Côté bleu, on devrait retrouver au coup d'envoi les mêmes joueurs qu'en Moldavie. Coup d'envoi 20h45.
Les matchs d'hier soir et l'Allemagne sur le chemin de la reconstruction.
Après un mondial très décevant, beau succès 3-2 aux Pays-Bas hier soir. Victoire par ailleurs des Belges 2-0 à Chypre avec un but d'Eden Hazard pour sa 100e sélection. Le rugby et le 14 matchs consécutifs sans défaite en top 14 pour le Stade toulousain. Victoire même hier soir, 23-19 à La Rochelle en clôture de la 20e journée. Les Toulousains premiers du classement devant Clermont et Lyon.
La ministre des Sports voit Florent Manonou revenir au plus haut niveau.
Roxana Maracineanu, championne du monde de natation en 1998, désormais ministre des Sports. Elle connaît les exigences de la natation que Florent Manonou, champion olympique en 2012, souhaite retrouver. Roxana Maracineanu était hier soir l'invitée d'Europe 1 pour la grande émission mensuelle « Une personnalité du sport face aux auditeurs ».
C'est sûr que ça va pas être simple parce qu'il s'est arrêté pendant 3 ans. S'il se réentraîne sérieusement, comme c'est une discipline qui demande pas énormément d'entraînement ou des heures d'effort continu, je pense qu'avec ses qualités physiques, il va pouvoir revenir à un très bon niveau rapidement. De là à gagner des médailles, c'est l'avenir qui nous le dira.
Il a signé la belle performance française du week-end sportif. Le cycliste Julian Alaphilippe a remporté samedi la classique italienne Milan-San Remo. Et il savoure ce matin la joie d'être classé numéro 1 du cyclisme mondial. Et puis au tournoi de tennis de Miami, plus qu'une Française en lice, c'est Caroline Garcia qui affronte aujourd'hui la numéro 2 mondiale Kvitova, la Tchèque, pour une place en quart de finale de ce Masters 1000. Cette nuit, élimination d'Alizé Cornet et côté garçon de Jérémy Chardy s'est passé en revanche pour Novak Djokovic.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Nom Schumacher, prénom Mick, le fils du champion allemand, pourrait apparaître pour la première fois au volant d'une Formule 1 le mois prochain, après des passages réussis par les divisions inférieures des monoplaces. Le magazine allemand Auto Bild croit savoir que Mick Schumacher, 20 ans, participera à des tests pour jeunes pilotes à Bahreïn, début avril.
C'était le journal des sports. Merci Jérôme Lacroix, vous avez été formidable.
Je suis là pour ça.
Il a su rester. Hein. Fabrice Dalméda, notre monsieur histoire, peut-il en dire autant? Mon cher Fabrice, je vous laisse vous installer.
Entre la pucelle et le futur roi.
Oui, juste à côté d'Eva et moi. Oui, c'est ça.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Le président Xi Jinping est reçu aujourd'hui à Paris par Emmanuel Macron. Les relations entre la France et la Chine sont-elles particulières?
Oui, dès l'origine, car c'est à l'occasion de la signature du premier traité amical entre les deux pays qu'a été prise, tenez-vous bien, la première photographie historique au monde. C'était en 1844, en Chine régnait un empereur, en France un roi, et Jules Itier, un douanier, photographe passionné, a immortalisé d'un clic les mandarins de la délégation chinoise et les diplomates français. Et ce traité commercial a permis à la France de devenir une puissance coloniale en Chine. Elle a obtenu 4 concessions à Shanghai, Tianjin, Hankou et Canton qui ont duré jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
Ça explique que les étudiants chinois font depuis longtemps leurs études en France.
Mais oui, à partir de 1919, une convention permet l'accueil en France d'étudiants chinois. Viennent aussi de jeunes militants indépendantistes comme Chu Enlai, futur ministre de Mao, ou Deng Xiaoping, futur président chinois chinois. Chuen Lai a séjourné à Paris dès 1920 et il y fonde le premier noyau du Parti communiste l'année suivante. Deng Xiaoping rejoint ce groupe en 1923 et lance l'un des premiers journaux du Parti communiste chinois en France, La Lumière Rouge. Et plus tard, les deux hommes ont œuvré pour le rapprochement entre la France et la toute nouvelle République populaire de Chine proclamée en 1949.
Et quand la France a-t-elle reconnu cette République communiste ?
C'est le général de Gaulle qui a reconnu la Chine le 27 janvier 1964. Nous étions le premier pays occidental à tendre la main à Mao au détriment de Taïwan. Chou Enlai y voyait l'aboutissement d'une sympathie entre les deux pays faisant oublier l'épisode colonial. Aujourd'hui, la fascination est réciproque entre France et Chine. Pourtant, la concentration des pouvoirs du président Xi Jinping, son impérialisme et la question des droits de l'homme suscitent évidemment des inquiétudes pour l'avenir.
Bien sûr. Merci beaucoup Fabrice Dalméda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la procrastination. Selon un sondage Odoxa, nous sommes en France 85% à préférer remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. À 6h20, nous recevrons la psychologue Isabelle Payot qui nous expliquera pourquoi on est 85% de feignasse et surtout comment réussir à se faire violence pour ne plus l'être. Vous êtes d'accord Céline, on s'y met ?
Non, par contre, on peut le faire demain.
Oui.
Allez.
D'accord.
J'ai tout compris. Il est 6h17. Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
La famille de la septuagénaire blessée à la tête samedi à Nice va déposer plainte aujourd'hui pour violence volontaire dans un entretien à Nice matin. Les propos d'Emmanuel Macron vont sans doute faire réagir. Le chef de l'État souhaite à la militante d'attaque un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. Fin de citation. La France déroule le tapis rouge pour le président chinois Xi Jinping. Hier soir, il était reçu par Emmanuel Macron à la villa Kérilos à Beaulieu-sur-Mer, près de Nice, pour un dîner privé. Il est attendu aujourd'hui à Paris. Enfin, 7 marques d'implants mammaires pourraient être interdites en France. Aucune décision n'est été prise à ce stade, mais l'Agence nationale des produits de santé doit rendre prochainement son avis.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici donc pour les titres de ce lundi, et ce 25 mars est aussi la journée mondiale d'information sur la procrastination. Selon un tout récent sondage Odoxa, 85% des Français se sentent concernés par ce comportement qui consiste, je le rappelle, à remettre à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite. Par exemple, moi, cette interview, j'aurais pu la préparer hier tranquillement, au lieu de ça, j'ai préféré jouer à FIFA, ce qui a induit un pic de stress ce matin vers 4h43 quand il a fallu enfin s'y mettre. Bonjour Isabelle Payot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio, vous êtes psychologue du travail et de l'apprentissage. Ce sondage nous indique donc que cette procrastination concerne d'abord les activités sportives, les tâches ménagères et les rendez-vous médicaux. Moi, j'aurais dit les impôts. Oui. Alors d'abord, ce chiffre, 85% des Français qui disent avoir tendance à la procrastination, est-ce que c'est un chiffre qui vous surprend ou bien toute la journée, vous voyez défiler des gens tout ramollos à qui vous dites « Allez, on se secoue maintenant » et qui vous répondent
« Non, par contre, on peut le faire demain. Allez !»
Comme Céline Dacosta. Est-ce que c'est un chiffre qui vous a surpris ?
Non, ce chiffre, il ne me surprend pas parce qu'en fait, on a de plus en plus de tâches à laquelle, auxquelles on doit penser. On a une charge mentale qui devient de plus en plus.
Il me semblait bien.
C'est pas une question qu'on a moins de temps, c'est qu'on a plus de choses à faire. Donc forcément, dans ce plus de choses, il faut que je priorise. Et si je priorise, ça veut dire qu'il y a des activités que je vais mettre de côté.
Et est-ce que donc la procrastination, c'est un facteur de stress au final ?
Oui, c'est forcément un facteur de stress parce qu'on se met une charge, on a des attentes, on voudrait être parfait dans une société de la perfection, de la performance. On voudrait vraiment tout faire et le faire bien et on se stresse tout seul.
Alors pour tout faire et le faire bien, moi j'ai une idée géniale, c'est la to-do list. C'est une super idée ça, non ?
Non.
Ah mince.
Non, la to-do list, moi j'appelle ça la liste qui n'en finit pas parce qu'en fait on se rajoute toujours une tâche,
oui.
On barre, on rajoute, on n'est jamais satisfait avec cette to-do list, donc ça sert à rien.
Il
vaut
faire,
mieux se dire on a deux choses à faire et c'est prioritaire que de se mettre une tartine qui vraiment ne nous amènera nulle part.
Ce sondage Odoxa dont on parlait indique en outre que la procrastination touche davantage les jeunes. Les 18-24 ans sont plus concernés que la moyenne, 92%.
Oui.
Alors qu'est-ce que c'est que cette génération de feignasses qui arrive ?
Eh bien, ça n'est pas une génération de feignasses, on a été comme ça aussi, c'est que leur cerveau n'est pas encore arrivé à maturation. Donc il y a le cortex préfrontal qui est un peu faiblard chez les 18-24 ans. Et
Je vois mon neveu Kylian, c'est ce que je me dis aussi souvent, ça, c'est un peu faiblard.
Tout ce qui est organisation, planification, gestion des émotions, c'est pas en place. Donc ils n'en vont pas pouvoir, ils vont se dire c'est bon, je gère, j'ai le temps, ouais, je suis large, etc. Or c'est faux.
Eva Roque.
Ah oui, il y a une chose qui m'a étonnée, c'est qu'on parle des activités sportives, des tâches ménagères et des rendez-vous médicaux. C'est les trois choses qu'on remet à demain. Les Français n'ont vraiment pas envie de prendre soin d'eux.
Alors, certains, en fait, procrastinent parce qu'ils sont anxieux. Ils ne veulent pas prendre de rendez-vous médicaux en disant, on ne sait jamais, on va peut-être m'annoncer un truc horrible et j'ai pas envie de le savoir.
Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Voilà. Là, franchement, ça me paraît ridicule.
Donc, ils repoussent, ce qui est inquiétant parce que parfois, il vaut mieux savoir tout de suite et pouvoir régler le problème médical que d'attendre et de se retrouver avec une cochonnerie. Je ne sais pas comment.
Alors, ce que l'enquête dit aussi, c'est que les deux tiers des Français, les deux tiers de ceux qui procrastinent, aimeraient gommer cette habitude. Ils en ont conscience quand même.
Oui, ils en ont conscience et surtout, c'est socialement, on aime toujours regarder ceux qui ont l'air super performants, qui font tout, ils font tout bien, ils sont bons dans tous les domaines et on se dit, moi je voudrais être comme l'autre, sauf qu'on ne sait pas vraiment si l'autre procrastine ou pas. Donc on a envie de gommer et on a envie d'avoir la meilleure version de soi-même. Alors déjà, si on s'acceptait avec notre capacité à procrastiner, ce serait un peu mieux. Et puis, voilà, il y a des petits trucs qui peuvent permettre.
Alors quels sont ces petits trucs? Quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos auditeurs qui aimeraient, comme Eva R. de Nice par exemple, arrêter de remettre à demain ce qu'elle pourrait faire aujourd'hui?
La première chose, c'est de pouvoir regarder dans ce qu'on repousse, qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui l'est moins. Si je ne fais pas le repassage aujourd'hui et que je le fais demain, bon, on s'en fout.
Alors, moi, j'ai une solution pour le repassage, je ne le fais plus.
Et voilà, on
plus.
Prend quelqu'un.
Et je mets des affaires qui sont croissées et je m'en fous. C'est un conseil de vie que je peux donner comme
solution.
Ça. Voilà, je
mais
donne ce
on
conseil
peut avoir, voilà, on va prioriser et puis... ce qu'on va faire, parce que notre cerveau, il va toujours calculer le bénéfice-coût. Donc, il y a une partie de notre cerveau qui calcule le plaisir immédiat. Donc, ça, c'est la dopamine qui nous donne ça. Et puis, de l'autre côté, la sérotonine, qui est l'hormone de l'effort, elle va dire, oui, d'accord, mais combien ça va me coûter? Donc, on sort la valeur nette et on dit, ah ben non, je le fais pas, je le repousse, ça me coûte trop cher, finalement, ou bien je vais le faire tout de suite. Donc, on va calculer ça. Donc, l'idéal, c'est d'alterner des activités qui sont à plaisir immédiat, de faire au moins deux pour une qui est un peu plus pénible. Et d'autre part, il va falloir aussi essayer de calculer le temps que me prend la tâche qui m'est pénible. Oui. Par exemple, faire les papiers administratifs, on se dit c'est pas grave, je le repousse, ça va me prendre 5 minutes. Or, c'est faux,
et
ça
non,
va me prendre plutôt
que...
une heure. Oui. Et donc, d'évaluer ça et de le découper en petites tâches.
Et comment ça se fait que le sport soit la première chose qu'on zappe? Moi, ça me paraît bizarre, ça. Le sport, c'est pas la première chose que je zapperais.
Parce que ça demande un effort, même si on sait qu'après, ça sera chouette. Oui, ça fait du bien, mais se faire du bien avant que ça arrive, avant que ma sérotonine se mette en place, ça va être un peu plus long et que ça sera qu'après une heure où j'en ai bien bavé, que je vais me dire, oh, je suis contente, j'ai bien fait d'y aller.
Mais est-ce que vous avez l'impression qu'avec nos modes de vie très connectés, on a cette tendance à zapper, à reporter les dossiers?
Alors, la connexion, elle fait qu'on est dans l'immédiateté. Donc, c'est vrai qu'on veut une réponse immédiate, on clique, on achète quelque chose. Donc, tout devient assez facile pour une bonne partie des activités. Donc, finalement, ce qui va nous demander plus de temps va commencer à nous agacer. On voudrait un assistant personnel pour faire des choses à notre place, finalement.
Mais ce qui est étonnant, c'est que finalement, aujourd'hui, on est plus aidé par les nouvelles technologies. Par exemple, il y a plein de choses qu'on peut faire en ligne.
Oui.
Une demande de visa, certains papiers administratifs qu'on peut faire. On peut même signer des contrats en ligne.
Oui.
Donc, on devrait avoir du temps dégagé. On devrait avoir du temps en plus. Or, ce n'est pas le cas.
Non, parce qu'on a du temps. Ça, c'est un outil qui est à notre service, sauf qu'on a un temps de préoccupation,
une charge
mentale
qui reste la même.
Qui est exactement la même. Ouais.
Bon, c'est pas très réjouissant quand même tout ça. Mais bon, on peut aller vous voir justement. Non, ne procrastinons pas. Non, non, il faut essayer de nous faire violence un petit peu.
On
merci.
Peut procrastiner un peu et puis.
Un petit peu, un chouïa. Procrastinons un chouïa, ça sera le message.
Voilà,
merci Isabelle Payot. On rappelle que vous êtes psychologue du travail et de l'apprentissage. Vous proposez des ateliers, des séances de coaching à Paris, à laquelle s'inscrira Eva certainement. Tous les renseignements sont retrouvés sur le site internet lafabriqueabonheur.com. Bonne journée à vous.
Merci.
Europe 1.
Il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 du sensationnel David Doucan. La météo avec normalement, mais c'est non contractuel, du soleil un peu partout, mais des nuages aussi.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo, peut-être plus clair que ce que j'ai dit tout à l'heure, vu que j'ai annoncé à la fois du soleil et des nuages. On reste couvert ce matin, c'est plutôt
oui,
ça la tendance.
Bon, déjà, on va parler du froid, parce qu'il fait bien frais, 3 à 10 degrés. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Doucan? Qu'est-ce qui se passe? Quelques jolis encore.
C'est Doucan qui relève, ça le fait gausser l'expression « on reste couvert ce matin ». Le ciel est couvert, si vous voulez, David.
C'est ça, et puis on va se couvrir nous aussi, parce qu'il fait froid, c'est ça, on parlait du froid.
Bien sûr.
On va y arriver. Quelques gelées encore dans le nord-est, un peu plus de douceur près de la Méditerranée puisqu'on a déjà 15 degrés à Perpignan. Cet après-midi, les températures baissent sur la moitié nord, 9 à 14 degrés, il en fera 12 à Paris, couplé avec un vent de nord, une sensation de froid donc qui va être bien présente. Là aussi, on garde sa petite laine, monsieur Doucan. Pour la moitié sud, c'est plus doux, 14 à 19 degrés, 22 même près de la Méditerranée. On fera attention également au vent puisque le Mistral va souffler jusqu'à 100 km à l'heure.
Et côté ciel aussi, beaucoup de nuages encore.
Exactement, beaucoup de nuages déjà ce matin des Ardennes à l'Alsace et puis en descendant à la région lyonnaise et le massif central.
Il faut préciser dans les termes que David Doucan n'arrête pas de parler.
Voilà, et je vais faire pareil pendant son
journal. Normalement, en radio, quand on est professionnel, on parle doucement pendant que l'autre parle. David s'en fout complètement, il parle à la régie très fort, comme s'il était chez Mamie.
Pareil, je m'en fiche. Là où le soleil va briller plus généreusement, c'est comme souvent près de la Méditerranée, mais aussi ce matin entre la Bretagne, les Pays de la Loire, le Limousin, le Poitou-Charentais, le nord de l'Aquitaine, et continue l'infernal. Cet après-midi, on aura des nuages un petit peu partout. Le soleil, lui, va continuer à briller, monsieur Doucan, largement entre les côtes méditerranéennes et la Corse. Voilà, j'espère que vous avez bien tout suivi, chers auditeurs.
On espère que vous avez mieux compris que nous. Vous écoutez. Allons, lançons notre petit jingle. Soyez professionnels.
5h, 7h, Mathieu Noël.
Voilà, vous écoutez debout les copains. 2 heures pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire. Une actualité qui a parfois, on s'en rend compte, a posteriori une influence énorme sur nous, sur les pensées qui nous traversent et surtout celles qui traversent Céline D'Acosta.
Oui, mais non, mais tout. Quand j'entends cette musique, je pense à Macron, du coup.
Et oui, Céline, vous pensiez au week-end au ski pendant les Gilets jaunes, c'est ça. À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent pour éclairer nos lanternes au programme. Nathalie Loiseau qui, en se lançant aux européennes, contraint le gouvernement à se réorganiser. Axel de Tarlé qui mouillera le maillot, mais celui d'équipe de France. Et Eva Roque qui passera à la trappe.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal du 6h30 présenté par David Doucan qui va enfin pouvoir parler. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Et tout d'un coup, l'horizon s'éclaircit. Pour Donald Trump, le procureur Mueller n'a pas trouvé de preuves de collusion avec les Russes lors de l'élection de 2016. Chou blanc donc. Donald Trump est ravi, vous l'entendrez. Le deuxième procès Mera, le frère du terroriste, est jugé en appel à partir d'aujourd'hui pour complicité dans les tueries de Toulouse et Montauban. Nous écouterons la mère de l'une des victimes, Latifa Benziaten. Et enfin, c'est le rêve caché de Mathieu Noël, devenir chanteur d'opéra. Nous irons.
Oh, sole mio.
Nous irons à la rencontre des virtuoses de demain, une trentaine de jeunes qui ont réussi l'exploit d'intégrer l'Académie de l'Opéra de Paris.
Europe 1.
On imagine le soulagement du président américain. Après 2 ans d'enquête, le procureur spécial chargé du dossier russe n'a rien trouvé. Le rapport de Robert Mueller conclut que Donald Trump n'a pas conspiré avec Moscou pour influencer la campagne de 2016. Donald Trump, qui a immédiatement réagi à la nouvelle, écoutez-le.
Ça vient juste d'être annoncé. Il n'y a eu aucune collusion avec la Russie. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Il n'y a pas eu d'entrave à la justice. C'est une disculpation totale et complète. Et c'est une honte que votre président ait eu à subir ça. C'est une tentative illégale pour me faire tomber. Ça a échoué.
Et nous développerons cette information avec notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon, que vous retrouverez dans les journaux de 7 et de 8 heures. Le président chinois est actuellement en visite d'État en France, à Nice depuis hier où il a dîné avec Emmanuel Macron, à Paris aujourd'hui et demain. L'objectif du président français est de persuader Xi Jinping de jouer selon les règles du multilatéralisme, en particulier dans le domaine commercial. Emmanuel Macron, dont on peut lire l'interview accordée à Nice ce matin, il y souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse à la militante d'attaque, grièvement blessée lors d'une manifestation interdite samedi. Il s'agit de Geneviève Leguet, âgée de 73 ans. Il faut avoir un comportement responsable, a ajouté le président de la République. Nul doute que le passage sur la sagesse et la responsabilité entraînera de multiples réactions aujourd'hui. Il y a 7 ans, Mohamed Merah assassinait 7 personnes, dont 3 enfants d'une école juive, les tueries de Toulouse et de Montauban. Le djihadiste ayant été tué à l'époque lors de l'assaut, c'est son frère qui est devant la justice. Abdelkader Merah avait été condamné il y a 1 an pour association de malfaiteurs terroriste, mais la cour d'assises l'avait acquitté du chef de complicité, inacceptable pour les familles des victimes, d'où le procès en appel qui commence aujourd'hui. Écoutez la mère de l'un des militaires tués par Merah à Montauban, Latifa Benziaten.
L'année dernière, je suis sortie, j'arrivais même plus à marcher tellement que j'étais déçue, choquée, parce que c'est beau de garder le silence et de nous regarder. Mais on voudrait savoir ce qui s'est passé exactement, comment il a guidé son frère, de quelle manière il l'a aidé. Voilà, c'est très important.
Quel souvenir vous gardez de lui, justement ?
Le souvenir qui m'a beaucoup marqué, c'est quand il a dit « J'espère que mon petit frère sera au paradis ». Je trouvais ça dandine. Soi-disant, quelqu'un qui connaît l'islam, on ne peut pas tuer cette personne et puis on dire « On souhaitera qu'il sera au paradis ». Je ne pense pas. Ce n'est pas des mouches qui sont tombées, c'est des humains. C'est des adultes, c'est des enfants, c'est des pères. Deuxième, c'est quand la mère, elle a rentré, il a salué. C'est comme ils sont d'accord toutes les deux. Je trouvais ça affreux. Une complicité, voilà, je suis avec toi, t'inquiète pas. Et tout ce monde-là qui était là, il ne voyait rien de tout ça. Il faut qu'on se réveille, il ne faut pas qu'on reste naïf à ce point-là.
Latifa Ibn Ziaten avec Pierre de Cossette pour Europe 1. Le fameux chèque énergie maintenant, il arrive à partir d'aujourd'hui. 5 800 000 foyers sont éligibles. Le dispositif vise à donner un coup de pouce aux ménages les plus modestes pour payer leurs factures énergétiques. Alors, qui y a droit et comment l'obtenir ? Maud Descamps.
Aucune démarche n'est nécessaire, mais vous pouvez tout de même vérifier votre éligibilité en vous rendant sur le site chèqueénergie.gouv.fr. Le montant de votre chèque varie en fonction des revenus que vous avez déclarés à l'administration fiscale. Il peut aller jusqu'à 277 euros par foyer. Pour une personne seule, il faut gagner moins de 10 700 euros par an. Pour un couple, c'est moins de 16 000 euros. Quant à l'utilisation du chèque énergie, c'est vous qui décidez. Vous pouvez l'attribuer automatiquement à votre fournisseur de gaz ou d'électricité. Dans ce cas, son montant sera déduit de votre facture. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour financer des travaux chez vous s'ils sont destinés à améliorer la consommation d'énergie de votre logement. Et enfin, sachez que si les travaux interviennent après la date de fin de validité de votre chèque, vous pouvez le convertir en chèque travaux de la même valeur. Il sera alors valable pendant 2 années supplémentaires.
Maud Descamps pour Europe.
À suivre dans ce journal, les côtes atlantiques et la menace d'une pollution au mazout. Mais les bénévoles sont prêts à enfiler leurs bottes pour tout nettoyer. A tout de suite.
Il est 6h36.
Europe 1.
Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, les côtes atlantiques et la menace d'une pollution au mazout.
Oui, conséquence du naufrage du Grande America, on craint l'arrivée de boulettes de pétrole à la fin de la semaine. Mais les bénévoles sont déjà sur le pied de guerre. Ils étaient mobilisés ce week-end en opération nettoyage, une sorte d'entraînement. Reportage de Jean-Gabriel Bourgeois à Étré en Charente-Maritime.
Bottes et gants indispensables pour crapahuter dans les rochers. Christelle vient de Niort pour nettoyer la plage avec ses deux filles, Eliette et Susan, 9 et 11 ans.
Ça, je sais même pas ce que c'est. Ça semble pas appartenir. Ni au milieu marin.
Qu'est-ce que tu as trouvé, Suzanne ?
Un gros truc filet de pêche.
Un gros truc filet de pêche. C'est pas contraignant, c'est une belle promenade et on fait quelque chose d'utile.
Une promenade en famille pour transmettre les bons réflexes aux plus petits. François est étudiant à La Rochelle et grâce à une pince spéciale, il réussit à dégager un filet à huîtres embourbé dans la vase. Mais c'est un autre problème qui l'amène ici.
Avec le Grand America, ça rajoute la motivation pour venir aujourd'hui. On sait jamais vraiment avec les marées, le vent, mais bon, ça arrivera forcément.
Pas de boulettes de fioul sur le rivage pour le moment, mais à 350 km au large, le Grande America continue de déverser son carburant dans l'océan. Pour Olivier, bénévole à Surfrider, le naufrage du navire italien permet de sensibiliser davantage.
Forcément, les gens ont cherché à savoir quel était l'état des plages par rapport au possible mazout qui arrivait sur nos côtes. Ça fait son chemin dans les têtes. Plutôt surpris par le nombre de personnes présentes aujourd'hui.
Bilan de 2 heures de ramassage, 265 participants, sacs poubelles à la main, remplis de morceaux de ferraille, de bidons en plastique, de filets de pêche et même des pneus. Près de 650 kilos de déchets au total.
Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1. Alors, comment devenir chanteur d'opéra ? C'est la question que vous vous posez, Mathieu, car
depuis fort longtemps.
Mais oui, c'était l'un de vos rêves lorsque vous étiez enfant et auquel vous avez opportunément renoncé. Alors, allons voir ceux qui ont vraiment une chance de percer. La trentaine de jeunes triés sur le volet de l'Académie de l'Opéra de Paris. Ils donnent en ce moment un spectacle à Bobigny en Seine-Saint-Denis. Thierry Geffrotin.
Les voix sont solides. Le jeu de scène sans doute encore un peu appliqué. Il faut dire que tous sont très jeunes, autour de 25 ans. Ce soir-là, une dizaine de chanteurs donnent La Chauve-souris, une opérette de Johann Strauss. L'un des rôles principaux est interprété par la soprano Angélique Boudeville, entrée à l'Académie en septembre 2017.
Qu'est-ce que nous apprenons dans cette académie? Il y a de la diction, de l'expression corporelle, il y a tout un panel de chefs de chant qui donc nous font répéter notre répertoire. Chaque nouvelle production nous amène à rencontrer des nouvelles équipes, donc c'est un défi perpétuel.
L'Académie de l'Opéra de Paris a été créée en 2015. Les candidats recrutés sur concours viennent du monde entier, des chanteurs mais pas seulement, des métiers techniques aussi, perruquiers, costumiers, tapissiers et des musiciens d'orchestre. Tous sont payés durant cette formation de très haut niveau qui alterne enseignement et concert public.
Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1. Je crois, Eva Rock, que vous reviendrez sur ce sujet demain dans votre chronique.
Et média, exactement,
que tout le monde
parce
attend
qu'il y a un
chaque jour.
Voilà, merci beaucoup, David Ducamp.
Alors, c'est dégoûtant.
Un mot de football,
David,
peut-être, pour terminer.
Tout le monde
Mathieu.
Attend la chronique d'Eva. Un mot de football, volontiers.
Oui. Francis Lalanne, ce soir, Stade
peut-être
de France.
Pouvez-vous le chanter un peu à la manière d'un chanteur d'opéra.
Je n'ai pas cette prétention. Match de qualification dommage. Pour l'Euro 2020, coup d'envoi de la rencontre à
20h45.
Bravo Mathieu. Voilà.
C'était le journal de David Ducan. David qui, je le sens, va aimer la journée mondiale d'aujourd'hui. Journée mondiale, mon cher David, pour dire non à la publicité. Or, je suis persuadé, David, que vous faites partie de ces personnes qui ont apposé un autocollant stop pub sur leur boîte aux lettres. Non, pas du tout.
Je
le pensais parce que durant les coupures pub, je vous ai toujours senti très critique à l'égard des scénarios publicitaires.
Je m'appelle Caroline Métro et je recrute avec...
Caroline Métro. Et moi, je m'appelle Jean-Michel Tramway. Pourquoi pas Gertrude Bus, tant qu'on y est.
Justement, David, nous retrouverons à présent une journaliste qui, elle aussi, déteste la pub.
C'est vrai.
Oui, alors Céline, le temps pour aujourd'hui. Beaucoup de nuages encore.
Oui, c'est vrai. Ils sont surtout présents sur une partie est aujourd'hui, mais vont gagner tout le pays cet après-midi. On aura quand même quelques éclaircies, mais aussi un vent de nord bien sensible et bien froid. Là où ce sera ensoleillé, c'est près de la Méditerranée, ça toute la journée. Et puis ce matin, on aura quand même une zone un peu plus ensoleillée entre la Bretagne et la Gironde, en passant par le Limousin, le Poitou, Charente. Quelques averses ou flocons en altitude possible entre l'Alsace et le Jura pour cet après-midi. Quant aux températures, elles baissent. 9 à 14 degrés, c'est la moyenne pour cet après-midi sur la moitié nord. 14 à 19 pour la moitié sud. Ça grimpera même jusqu'à 22 degrés près de la Méditerranée.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Jusqu'à présent, vous étiez en compagnie de ceux qu'on appelle les trois pas fantastiques. Eva, Céline et moi.
Toi, tu mines des trucs, toi, Eva?
Le renard.
Vas-y.
Elle mime le renard.
Mime le renard.
Vas-y.
Bon, c'est un lapin, ça.
Mais votre cauchemar touche à sa fin, car voici venir les trois fantastiques. Politique, économie, médias, Mickaël Darmon, Axel de Tarlé, Eva Rock qui joue sur les deux tableaux. Au programme ce matin notamment, réorganisation en vue au gouvernement avec la candidature de Nathalie Loiseau aux européennes. Et puis, alors que les Bleus arboreront ce soir face à l'Islande un maillot collector pour les 100 ans de la Fédération Française de Foot, Axel de Tarlé reviendra sur un fiasco collector, celui du maillot Nike 2 étoiles du champion du monde.
Bon réveil à tous, il est 6h42. Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
L'horizon s'éclaircit pour Donald Trump. Le procureur Mueller n'a pas trouvé de preuves de collusion avec les Russes lors de l'élection de 2016. Le président américain s'est réjoui, je cite, d'une disculpation totale et complète. Le président chinois est actuellement en visite d'État en France, à Nice depuis hier, où il a dîné avec Emmanuel Macron, à Paris aujourd'hui et demain. L'objectif du président français est de persuader Xi Jinping de jouer selon les règles du multilatéralisme, en particulier dans le domaine commercial. Emmanuel Macron, dont on peut lire l'interview accordée à Nice ce matin, il y souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse à la militante d'attaque grièvement blessée lors d'une manifestation interdite samedi. Nul doute que le passage sur la sagesse entraînera de multiples réactions aujourd'hui.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ils sont là, ou plutôt, pensons à ce jeune public qu'on doit shipper à Fun Radio, ils sont dans la place. Yo! Bon, Céline, vous qui êtes la plus jeune, dites quelque chose de jeune pour lancer la séquence.
C'est maintenant, c'est now!
Voilà! Bref, bon, les trois fantastiques sont là, Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique et pour l'économie et l'humour, l'inestimable Axel de Tarlé. Oui, Axel?
On a un peu de temps, j'ai l'impression, là. Oui. J'avais une astuce.
Non, non, pas du tout, on n'a pas de temps, malheureux, pas de temps, on doit sans tarder passer à la politique. Avec vous, Mickaël Darmon. Mickaël, ce matin, vous avez des informations sur la manière dont la liste Renaissance, soutenue par La République En Marche pour les élections européennes, sera bouclée aujourd'hui. Que va-t-il se passer?
Alors, tout d'abord, ce soir, Nathalie Loiseau doit démissionner de son poste de ministre déléguée aux Affaires européennes, après avoir passé d'ailleurs la journée avec son homologue allemand. L'agenda va se libérer et elle va sortir donc du gouvernement. Il faut savoir que le nom de la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, circule depuis plusieurs semaines. À ce micro, on avait évoqué cette possibilité dès le 22 février, il y a un mois. On avait raconté les premières démarches pour lancer ce projet donc autour d'elle. Elle démentait évidemment à l'époque à qui mieux. Nathalie Loiseau a donc su convaincre les hésitants, y compris le président de la République pendant un temps, mais elle a eu plusieurs avocats, surtout du côté du Premier ministre d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a commencé également son parcours chez Alain Juppé. Sa connaissance des rouages internationaux et européens devrait se révéler précieux pour la suite des négociations après l'élection, parce que c'est après l'élection en fait que tout commencera. Autre information, demain après-midi, le bureau exécutif de La République En Marche désignera les 30 premiers candidats de la liste Renaissance. Avec la tête de liste, sera une liste, dit-on, d'élargissement politique, sociologique, professionnel, avec des profils très différents. Bref, selon un dirigeant de la campagne, c'est la liste de tous les en même temps.
Et la démission de Nathalie Loiseau va déclencher une réorganisation gouvernementale. Qui pourrait prendre son portefeuille et qui d'autre pourrait quitter le gouvernement?
Alors tout d'abord, un nom revient régulièrement, hein, c'est celui de Clément Beaune, le conseiller Europe de l'Elysée. La logique semble le désigner, grand connaisseur des dossiers très complexes du Brexit et des enjeux européens. Deux critères qui pourraient aussi décider le président à le garder près de lui, tout simplement, parce qu'on sait à quel point les présidents ont du mal à se séparer de ce type de collaborateur, surtout en période sensible, donc affaire à suivre. L'autre enjeu, je dirais, le dossier Griveau. Le porte-parole du gouvernement a fait clairement savoir qu'il souhaitait quitter son poste pour se consacrer à l'investiture pour la campagne à Paris. Et là, Emmanuel Macron doit décider, faire un remaniement pour les candidats aux élections ou garder l'accent uniquement sur la campagne des européennes, d'autant que la question de son remplacement sera posée. Une autre question délicate à trancher. D'ores et déjà, plusieurs critères ont déjà été listés. Hein. Si un homme remplace Loiseau, alors une femme remplacerait Benjamin Griveau s'il devait partir, etc., etc. C'est la raison pour laquelle donc Benjamin Griveau souhaite retrouver sa liberté de parole, parce qu'en fait, il y a beaucoup de candidats pour être porte-parole, mais en même temps, il faut savoir que c'est un poste qui est à la fois très exposé et qui affaiblit politiquement, parce qu'on est obligé tout simplement de répéter des éléments de langage et de tenir des positions coûte que coûte. Bref, hier dans la soirée, un proche d'Emmanuel Macron me disait, concernant le départ éventuel de Benjamin Griveau, rien n'est arbitré, mais tout commence pour donc Nathalie Loiseau.
Merci beaucoup Mickaël Darmon pour ces indiscrétions politiques. On passe à l'économie avec vous Axel. Enfin l'économie, pas que l'économie qui vous plaît, c'est le ballon qui vous plaît. Vous, l'équipe de France de foot jouera ce soir avec un maillot collector face à l'Islande. Nike veut faire oublier le fiasco du maillot 2 étoiles, toujours introuvable. Hein.
Voilà, alors ce maillot rétro, lui, il sera trouvable. Hein, donc c'est pour les 100 ans
rétro
de la...
Ah,
oui,
super.
C'est pour les 100 ans de la Fédération Française de Football. En revanche, vous avez raison. Le vrai maillot 2 étoiles, donc double champion du monde, lui reste introuvable. Je vous ai retrouvé cet échange surréaliste entre Nikos et Didier Deschamps, parce que vous savez, Didier Deschamps était invité fin janvier pour l'émission Face aux auditeurs. Et il y a Nikos qui arrive, qui pose une question à Didier Deschamps. Écoutez.
J'étais venu vous photographier quelques jours avant votre départ pour la Russie, vous vous en souvenez?
Oui, je m'en souviens, de belles photos d'ailleurs.
C'est gentil. J'ai tous les joueurs de l'équipe de France. Mais ils n'ont qu'une étoile, parce qu'après ils ont gagné. Est-ce que je peux revenir pour faire l'acte 2 de la photo?
Ah, je croyais que tu voulais un maillot, c'est difficile d'en trouver.
J'ai vu, même Didier Deschamps est terrorisé à l'idée qu'on lui demande un maillot 2 étoiles, parce qu'il n'en trouve pas. Mais vous savez, le journal du dimanche hier nous révèle que les joueurs eux-mêmes n'en trouvent pas et ils ont dû jouer des matchs avec l'équipe
mais non,
de France.
Mais non, mais non.
Ils avaient des faux maillots, ils ont dû rajouter à la main une deuxième étoile parce que même eux n'arrivent pas à en trouver. Bah oui, Nike n'arrive pas.
Enfin, pourquoi ils n'arrivent pas?
Alors c'est ça qui est incroyable, parce que Nike c'est quand même un fabricant de maillots de sport. Ils n'arrivent pas, ils ne produisent pas en tous les cas, et donc du coup c'est le royaume du marché parallèle, hein, des faux maillots de l'équipe de France. Pourquoi? Bah écoutez, c'est assez mystérieux. Bon, d'abord, il faut savoir que Nike ne fabrique rien. Nike fait tout fabriquer dans les pays à bas coût, notamment en Thaïlande. Donc, ça veut dire un process industriel assez long. Et puis, alors, la deuxième explication, parce qu'après tout, il devrait quand même y arriver, c'est que la France n'intéresse pas Nike. Bah oui, le maillot de l'équipe de France, en fait, c'est un tout petit marché qui n'intéresse que les Français. Oui, autant si le Brésil avait gagné, le monde entier aurait acheté le maillot 6 étoiles de l'équipe du Brésil. Le marché du maillot de l'équipe de France, ça n'intéresse que les Français. Et à la limite, si vous voulez, les grands clubs anglais ou Lionel Messi, ça se vend bien plus à l'étranger. Voilà pourquoi la France n'est pas prioritaire pour Nike. Écoutez, c'est une bonne leçon d'humilité pour nos joueurs de l'équipe de France.
Oui, c'est un peu rageant quand même.
Oui, peu rageant. Bah écoutez, on n'a qu'à acheter... Non, je vais quand même pas faire la pub pour la contrefaçon. Mais on va pas aller jusque là. Bon, il y a le maillot collector.
Le nouveau dérapage d'Excelou, non pas humoristique cette fois-ci, mais éthique.
Il y a le maillot. Écoutez, ce sont les mêmes enfants qui le.
Ouais. Ce sont les mêmes enfants qui les fabriquent.
Bah oui, ils sont fabriqués dans les mêmes situations.
Petit carton rouge pour
acheter. On n'achète pas le maillot.
On n'achète pas le maillot, tout simplement. Ou on brode l'étoile soi-même. Voilà. On fait un petit atelier couture à la maison.
Couture, c'est bien.
Évidemment, Mickaël, visiblement, est coutumier du fait. Eva Rock, qu'est-ce que vous regardez à la télé ce soir?
Deux séries ce soir. Une américaine qui est à voir sur Canal Plus si vous êtes abonné. Patrick Melrose, fiction du même nom que son héros, qui raconte le destin d'un aristocrate britannique traumatisé par son père qui vient de mourir. Il est héroïnomane, aux pulsions suicidaires. Il est flanqué surtout d'un humour cynique. C'est adapté des romans d'Edward Saint-Aubin, pardon. Cette série m'a replongé plutôt dans l'univers si bien narré par Brett Easton Ellis. C'est extrêmement bien écrit. Une mise en scène esthétique et interprétation remarquable de Benedict Cumberbatch, tout ça, dans le rôle principal après
ça,
Sherlock.
C'est pas facile, en même temps, vous prenez beaucoup de risques entre Brett Easton Ellis.
Après Sherlock, ouais, c'est vrai. Le comédien gagne encore en crédibilité avec une dimension comique étonnante. Donc c'est à voir sur Canal+. Mais si vous n'êtes pas abonné, autre série réussie, c'est sur France 2, la saison 2 de Trap, un polar islandais. On reparle encore un peu de foot quelque part, avec des personnages au prénom imprononçable ou presque. Et je plaisante à moitié parce que je dois reconnaître que parfois on s'y perd, ne sachant pas si on parle d'une fille ou d'un garçon par exemple, donc on a du mal à s'y retrouver dans les personnages. Mais toujours est-il que l'inspecteur Andri enquête sur la mort d'un homme qui s'est immolé devant le Parlement, essayant de tuer en même temps sa sœur jumelle qui est ministre de l'Industrie.
Le marteau de Thor, ça m'a tout l'air d'un groupe d'extrême droite.
C'est peut-être lié. Si ça se trouve, les partisans du marteau de Thor veulent s'en prendre à la ministre à cause de la centrale électrique. Et peut-être que son frère était membre de ce mouvement.
Est-ce que vous pensez qu'il a tenté de faire brûler sa sœur par idéologie?
Est-ce qu'Atla Thoris de Tyr parlait de son frère jumeau de temps en temps?
Non. Pas de lui ni de personne d'autre de sa famille d'ailleurs. Nous avions étudié les conflits d'intérêts potentiels qu'engendrerait l'agrandissement de la centrale, mais il n'y en avait aucun. Pour vous dire la vérité, elle n'avait aucun contact avec sa famille depuis environ une vingtaine d'années.
L'enquête va se poursuivre loin du Parlement, au nord du pays, dans un coin isolé où plusieurs éleveurs soutiennent l'action menée par l'homme qui s'est tué, un Islandais, un vrai Islandais.
L'Islande, c'est quoi? C'est nos paysages, notre terre et le feu qui brûle en profondeur. Et cet homme était l'incarnation parfaite de ce que c'est que d'être Islandais. Il a été élevé par cette terre. Et ensuite, ses biens ont été saisis. Il a été traîné dans la boue, rabaissé, humilié. Qu'est-ce qui lui restait comme solution? Il a dû prendre les armes.
Série extrêmement intéressante parce qu'au-delà du polar classique, Trap traite des problèmes environnementaux. Hein, vous l'avez entendu, l'implantation d'une centrale électrique qui bouleverse l'écosystème de la région, mais aussi de la montée d'extrême droite dans un contexte anti-migrant. Le rythme est un peu lent, mais les rebondissements de l'enquête devraient vous garder devant l'écran. C'est à voir sur France 2 à 21h.
Merci beaucoup Eva Rock, merci Axel de Tarlé, Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h moins le quart.
5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains, c'est bientôt terminé. Reste ce passage obligé, ce sas de décompression obligatoire avant de vous laisser en compagnie de Nico Saliegas, le débrief de la matinale de vendredi. Une séquence qui clairement divise. Moi, par exemple, je l'estime tout à fait indispensable pour vos zygomatiques. Nikos, lui, est plus mitigé, estimant, je cite, que
99% des Français s'en foutent.
Oui, mais comme d'habitude, je donnerai tout pour le 1% qui ne s'en fout pas. Le débrief de la matinale de Nico Saliegas, à suivre.
Bon réveil à tous, il est 6h53. Il est 6h54, Mathieu Noël.
Debout les copains se termine et je vous connais, chers auditeurs, je connais votre sensibilité à cette funeste pensée. Votre petit cœur se serre, les larmes vous montent aux yeux, mais non, que diable, rassurez-vous, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nico Saliegas, une matinale particulièrement optimiste vendredi, surtout sur le plan de la météo, où, à écouter l'inénarrable Laurent Cabrol, on allait avoir un week-end resplendissant, on pouvait préparer le panier de pique-nique, sortir les Havaianas et mettre le rosé au frais. Bref, comme l'annonçait fièrement Nikos lui-même avec la voix d'Antoine Decaune quand il incarnait le personnage sévèrement burné de Gilles Grospaquet.
C'est le printemps.
C'est le printemps. Résultat, samedi tout gris, dimanche tout gris, et que Lolo n'aille pas me dire que j'exagère son enthousiasme. Je lui rappelle que vendredi, il nous incitait même à aller à la pêche en engueulant Nikos au passage.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, ça veut dire que vous allez pouvoir aller à la pêche à pied.
Ah, j'ai pas de canne à pêche.
Ben, vous avez des doigts et des pieds.
Les rafraîchissantes leçons de vie de Tonton Cabrol, dont j'exagère évidemment l'imprécision météorologique. Chacun sait au contraire que depuis quelques années, en inventant des sigles comme le PPO, le parapluie par obligation, ou le PPP, le parapluie par précaution, Laurent a fait entrer la météo dans l'ère de la PPM, parfaite précision météorologique, dont le seul défaut est d'être parfois PPO, parfaitement et profondément opaque.
Le PPP, parapluie à portée de main, parapluie par précaution... Parapluie par précaution. Et le PPO, parapluie par obligation, pour le Poitou-Charentes et la Vendée. Et voilà, nous allons aller comme ça, traquette, traquette.
Votre analyse de la situation, Nikos ?
C'est la sève du printemps qui provoque ces fulgurances.
Oui, ou le chablis, à voir. En tout cas, bravo Nikos, comme vous l'avez compris, je n'ai strictement rien à vous reprocher ce matin. Vous avez livré vendredi une prestation quasi parfaite. Aucun dérapage grivois notamment, et ça, quand on vous connaît, c'est une vraie prouesse.
Merci.
Même si au moment du teaser de Wendy Bouchard, on a senti que vous aviez envie d'y aller.
Et je vais vous poser une petite question. Quel est l'organe qui a la taille d'un drap de lit qui pèse deux fois plus que le cerveau ?
Un organe, vous voulez dire humain ?
La peau. C'est la peau. David, bravo David, c'est la peau.
Ah,
vous vous sentiez à la fois étonné et déçu. C'était la peau, tout simplement.
Vous avez du pot ce matin, je suis de bonne humeur.
Ça tombe bien.
Merci beaucoup Mathieu Noël, merci Eva Rock. Reposez-vous bien et à demain matin. Céline Acosta, vous êtes en forme, je vois.
Oui, très en forme, vous aussi.
Oui,
vous avez l'air très en forme.
Vous avez l'œil qui pétille pour bien commencer la semaine.
Bonjour,
pour tous nos amis qui se réveillent, bonjour Céline, bonjour Laurent Cabrol.
Et bonjour mes amis, n'en déplaise à Mathieu. Paris n'est pas la France.
J'ai précisé sur la moitié nord.
C'était juste pour vous charrier un peu, Lolo.
Tiens, oui.
Vous me le chauffez et après vous partez.
Ah oui, je vous laisse vous débrouiller avec lui.
Qui aime bien, charrie bien, vous le savez.
Ne vous inquiétez pas, Laurent, ne vous inquiétez pas.
De la malveillance, parce qu'il a fait beau sur les deux tiers de la France. Effectivement, Paris n'était pas dans le lot. Pardon, chers amis parisiens, pardon, c'est vrai. Nous nous sommes trompés, mais à coup pas, Lorraine, Alsace aujourd'hui.
Oui.
Ardennes, Franche-Comté, Alpes du Nord, Rhône et Auvergne sont des régions où nous aurons des nuages et où nous avons déjà des nuages qui arrivent et ils vont se multiplier dans les heures qui viennent. Ces nuages vont gagner tout le massif central cet après-midi, le centre, la Bourgogne, l'Orléanais et le Poitou-Charentes. Et puis nous aurons des éclaircies sur le littoral de la Manche, dans tout le sud-ouest, sur le bassin méditerranéen, il fera même très beau avec un petit vent de nord malheureusement. Et puis les éclaircies aussi, mais minoritaires cette fois sur la région parisienne, la vallée de la Loire et le Poitou-Charentes. J'essaie d'être précis, c'est bien pour cela que je me trompe de temps en temps. En ce qui concerne les températures, entre 10 et 22 degrés cet après-midi, et ce matin, couvrez-vous, il fait pas chaud, entre moins 3 et plus 8.
Merci Laurent Cabrol.
Le
à
prochain
tout à
point météo, justement, ce sera juste avant le journal de 7h30.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.